Bonsoir, province du Sud Kivu. Plusieurs vagues de ressortissants chinois sont appréhendés par les services de sécurité ces jours-ci pour exploitation illégale de minerais dans la province du Sud Kivu. D'abord une vingtaine en décembre dernier sur le site Karembo situé dans le groupement de Rubumbi, territoire de Walungu. Et la semaine dernière, trois autres aux mêmes endroits. Les services de communication du gouvernorat qui a donné cette information rapporte que ces Chinois se retrouvent en possession de 10 lingots d'or et des sommes importantes d'argent en dollars américains. Certaines autres sources parlent de 12 lingots d'or et 800 000 dollars américains. Tous avaient été expulsés en Chine sur ordre de la haute hiérarchie de la Direction générale de migration depuis Kinshasa, à la surprise du gouverneur de province. Ce dernier dit mener une opération de traque contre des personnes qui exploitent illégalement les ressources minières au Sud Kivu. Quelle analyse faire de la lutte contre l'exploitation illégale des minerais dans la province du Sud Kivu? Que faire pour que cette même lutte soit appliquée partout en République démocratique du Congo? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, nous recevons Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur de la province du Sud Kivu. On me signale que M. le gouverneur n'est pas encore en ligne. Également, dans le débat de ce soir, il y a Safanto Boulongo. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Donard. Et bonsoir à tous les auditeurs de la Diocapi.
Safanto Boulongo, vous êtes membre de la société civile du Sud Kivu et expert qui travaille sur les questions minières pour le compte de l'ONG Max Impact au Sud Kivu. Et enfin, Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, également point focal en République démocratique du Congo de l'ONG Transparency International. Et Ernest Mpararo, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à Safanto et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Province du Sud Kivu, plusieurs vagues de ressortissants chinois sont appréhendés par les services de sécurité ces jours-ci pour exploitation illégale de minerais dans cette province. D'abord, une vingtaine en décembre dernier sur le site Karembo situé dans le regroupement de Rubimbi, territoire de Walungu, et la semaine dernière, trois autres au même endroit. Tous avaient été expulsés en Chine sur ordre de la haute hiérarchie de la Direction générale de migration depuis Kinshasa, à la surprise du gouverneur de province. Ce dernier dit mener une opération de traque contre les personnes qui exploitent illégalement les ressources minières dans la province du Sud Kivu. Jean Kassami et Grassam Zati éclairent pour nous ce soir cette situation. On les écoute dans cet entretien.
Jean Kassami, bonsoir.
Oui, bonsoir Grassam Zati.
Dites-nous, dans quel coin de la province cette présence des exploitants illégaux étrangers est-elle remarquable?
Ils sont très nombreux ici de différentes nationalités dans presque tous les territoires de la province, étant donné que tous les huit territoires du Sud Kivu contiennent chacun au moins une gamme de variétés de minéraux dans son sous-sol, ce qui attire les étrangers à venir s'implanter où ils veulent et souvent dans l'illégalité. Sans titre de séjour ni permis d'exploitation, mais ils sont à l'œuvre sous la barbe des services habilités en la matière. Bien qu'ils soient de diverses nationalités, les Chinois battent les records en nombre, en équipement et en technique d'exploitation semi-industrielle des minéraux. Les autres se limitent à l'exploitation artisanale, faute d'équipement approprié.
Et comment ces Chinois sont-ils parvenus à se retrouver dans les fins fonds de la province sans titre de séjour ni permis d'exploitation?
C'est la question à laquelle même les autorités de la province du Sud Kivu ne parviennent pas à répondre avec exactitude. Le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques, a déclaré la fois passée qu'il était surpris lui aussi d'apprendre qu'un groupe de Chinois exploitait des minéraux dans l'illégalité depuis 4 ans dans les sites miniers à la limite entre les territoires de Walungu et celui de Mwenga.
Quelle a été la décision du gouverneur en tant que chef de l'exécutif provincial face à cette forme de fraude?
Vers la fin du mois de décembre passé, une équipe du gouvernement provincial avec à sa tête le ministre provincial des Finances faisant fonction de son collègue des mines avait intercepté un groupe de 14 ressortissants chinois en plein travaux d'exploitation des minerais dans un site du territoire de Walungu. Du coup, le gouvernement de la province du Sud-Kivu a décidé de les traduire en justice et de confisquer toute la quantité d'or et des billets de banque qu'ils détenaient.
C'est ce qui a été fait?
Non, malheureusement. Pour le gouverneur de province, l'ordre est venu de Kinshasa, demandant au service provincial qui les détenait de pouvoir les expulser le même jour. Cette expulsion brusque a suscité des remous au sein de l'opinion et de la classe dirigeante du Sud-Kivu, au point de pousser le gouverneur de province de promettre une poursuite en justice des auteurs de cette expulsion non concertée.
Mais comme si cet épisode ne suffisait pas, Jean Kassami, nous apprenons que 3 autres ressortissants chinois sont tombés dans le filet des services de l'État, encore une fois au Sud-Kivu. Qu'en est-il?
Ces faits remontent au 5 janvier 2025. Ces ressortissants chinois sont attrapés munis d'une dizaine de lingots d'or et d'une somme d'argent estimée entre 400 et 800 000 dollars. Toutes les composantes de la société civile du Sud-Kivu sont montées au créneau, cherchant à comprendre pourquoi Kinshasa demande encore une fois de plus au gouverneur de province du Sud-Kivu de transférer ces Chinois avec tous les colis à Kinshasa. Le gouverneur a rassuré ses interlocuteurs que ces colis de grande valeur sera consigné cette fois-ci à la banque pour servir aux travaux de développement de la province du Sud-Kivu.
Merci à vous, Jean Kassami, et passez une excellente soirée à Bukavu.
Merci et bonne soirée.
Merci à Jean Kassami et à Grâce Hamzati pour ces explications. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu nous a donné les assurances pour participer dans ces débats et on espère qu'on pourra l'avoir avant la fin de cette émission pour qu'il nous donne les éclairages à ce sujet. Mais Safanto Bulongo, membre de la société civile du Sud-Kivu, expert qui travaillait sur des questions minières pour le compte de l'ONG Max Impact dans la province du Sud-Kivu, un peu la même question que notre reporter a tenté d'éclairer par les informations qu'il a reçues de son côté. Mais vous, comment pouvez-vous expliquer l'existence de l'exploitation illégale des minerais dans la province du Sud-Kivu? Pourquoi la présence des étrangers et surtout, pourquoi surtout les Chinois?
Merci pour la question m'adressée. Je note que la vague de la présence des Chinois dans le secteur minier au Sud-Kivu ne date pas de cette année. Ah, je peux rentrer un peu en arrière vers les années 2020. On a assisté à une forte vague de citoyens chinois qui venaient dans différents sites d'exploitation minière. Certains étaient venus pour les infrastructures, pour travailler dans de projets d'infrastructures et du coup se sont convertis dans les activités minières. Mais je dois noter que quand ils viennent, la plupart, ils viennent au Sud-Kivu. J'ai devant moi des papiers, hein, des copies de certificats de dépôt datant de 2020 et où vous avez par exemple des sujets chinois dont la résidence en RDC est mentionnée comme étant Kamituga. Kamituga, une cité minière. Et vous allez voir que ces citoyens chinois n'ont pas, en termes de profession, il n'y a rien qui est marqué. Mais ces citoyens sont liés à des entreprises qui étaient en activité minière illicite. Et là, je dois noter que cette vague s'est amplifiée après la suspension des activités minières dans les territoires de Mwenga. Notamment avec la correspondance du ministre des Mines du 7 juin 2022, parce qu'en 2021, au mois d'août, il y avait une suspension des activités minières pour un certain nombre d'entreprises à capitaux étrangers, dont principalement chinois. Et après cette vague-là, on a assisté à un retour en force de citoyens chinois globalement qui venaient signer des protocoles d'accord avec des coopératives minières, et parfois, c'est ces entreprises-là qui devraient travailler en laissant de côté les coopératives à qui elles donnaient juste une quotité, soit de la production, que ces entreprises-là pouvaient déterminer. Au début, c'était 5% pour la coopérative et le reste pour l'entreprise. Et cela a continué. Et donc, comment les citoyens chinois arrivent à entrer en République, j'ai toujours été désolé du fait que au niveau national, on n'arrive jamais à poser de questions à la DGEM. Alors que la DGEM fait partie intégrante de structure membre de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Mais quand il y a des questions à aller avec cette situation de l'exploitation minière, on laisse toujours de côté le responsable de la DGEM, ce qui, en fait, accentue ce mouvement de citoyens chinois vers les sites miniers. C'est de l'exploitation illicite, effectivement, parce que on a constaté que certaines entreprises ont acquis des permis de recherche et exercent des activités d'exploitation dans de ces permis de recherche-là. Et d'autres, se cachant derrière les coopératives, exercent leurs activités dans des zones appartenant à des tiers. La responsabilité.
Ça fait de vous garder la parole. Vous nous éclairez l'étape de l'intervention des ressortissants chinois. Vous allez certainement y revenir. Mais la question, c'était comment vous expliquez l'existence déjà de cette activité illégale d'exploitation, parce que cette activité n'est pas que du fait de la présence des ressortissants chinois, ni même des étrangers seulement, mais aussi de la présence des Congolais. Qu'est-ce qui explique, selon vous, déjà cette activité d'exploitation illégale qui existe depuis plusieurs années dans cette partie de la RDC? Et après, vous pouvez nous expliquer comment les étrangers, les Chinois, arrivent-ils à s'intégrer là-dedans avec une ampleur beaucoup plus préoccupante, il faut le reconnaître.
Bon, je note que les codes miniers déterminent que le secteur minier est un secteur d'autorisation. On ne peut pas rester dans le secteur minier si on n'a pas d'autorisation préalable. Et il y a des services de l'administration minière, de mines, qui ont chacun des responsabilités à chaque niveau. Mais il s'est fait malheureusement que parfois, ces services-là n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités et les services se plaignent, surtout au niveau de province, du trafic d'influence. Et parfois même, ils vont trop loin sur le fait que ces services-là, ils disent qu'ils ne sont pas permis d'effectuer leurs activités parce que les exploitants illégaux sont protégés par des forces de défense et de sécurité du pays. Et effectivement, quand vous allez vers tous ceux qui font l'exploitation illicite en province du Sud Kivu, sont protégés à la fois par les policiers, les militaires et parfois aussi par les groupes des éléments des groupes armés. Et cela rend difficile au service, nonobstant le fait que certains responsables des services reçoivent des paiements indu de la part de tous ceux qui exploitent illicitement. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y ait persistance de cette exploitation illicite. Et tout le monde, quand on discute avec les services, tout le monde vous dit c'est Kinshasa. Et on a eu des cas illustratifs où des missions venues de Kinshasa. Et je vais vous prendre un cas le plus récent. Une mission est venue en septembre 2024 de Kinshasa, constituée de membres du ministère des mines, de l'IGM, etc. Ils sont allés dans les sites où travaille Golden Mining, donc à Kala, dans les sites de Karembo, qui est à la limite avec Karembo, c'est dans Walungu, Butongo, c'est dans Mwenga et Kala. Et étant donné que les Chinois ont déplacé même la limite entre ces deux territoires, la mission a constaté qu'il y avait des sujets chinois, qu'il y avait de matériel important, par exemple avec 28 camions, grands camions qui étaient en activité, des dragues, et ils ont qualifié l'exploitation d'illicite. Mais qu'est-ce qu'ils ont imposé comme fiscalité à cette entreprise-là à l'époque? En septembre 2024, j'ai dit très bien, 75 000 $ comme pénalité. Pendant que la loi prévoit que pour des cas d'exploitation illicite, le paiement c'est entre 41 662 $ à 1 041 000 $ et la saisie de toute la production. Mais malheureusement, ils ont juste empoché 75 000 $, ils sont allés à Kinshasa et ils ont laissé l'entreprise continue à travailler. Et donc, des situations comme ça font qu'il y ait persistance de l'exploitation illicite. Donc, on ne vient pas agir pour mettre fin, mais on vient agir et laisser la chose continuer. La même chose a été observée en 2022, où une mission est arrivée au site Kivu, en provenance de Kinshasa, après qu'il y ait une suspension des activités minières par la province. Vous aviez certainement suivi toutes les péripéties en termes de compétences entre le niveau provincial et le niveau national. Le niveau national, niant la compétence de la province à suspendre les activités minières illicites. Mais la mission est arrivée, après, ils ont fait payer les entreprises et après tout, après avoir empoché l'argent, ils ont laissé les entreprises continuer à travailler.
Ça décourage
les autorités.
Safanto Mulongo, oui. Nous comprenons la problématique et nous allons continuer de la décortiquer. Mais on comprend qu'à un moment donné, les services ont réussi à stopper cette activité illégale. Mais on fait le bilan qu'à certains moments on les a retrouvés avec beaucoup de lingots d'or et beaucoup d'argent en devises. Qu'est-ce qui explique que les autorités ou les services qui les arrêtent avec beaucoup de butin en main n'ont pas su les arrêter dès le début de leur activité? Pourquoi attendre qu'ils aient 12 lingots, 25 lingots d'or et plusieurs sommes d'argent en devises pour les arrêter, alors que les mêmes services qui les ont arrêtés maintenant pouvaient les arrêter quand ils avaient une cuillère et quelques pépites d'or au commencement?
Mais je note que les arrestations ne concernent qu'une seule entreprise jusque-là. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont dans cette situation-là. Et je félicite
Son
Excellence, Monsieur le Gouverneur,
pour
son courage.
Oui, vous allez féliciter, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on attend qu'ils aient travaillé suffisamment, qu'ils aient de gros butins, ceux qu'on mentionne là, mais nous imaginons qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pu retrouver sans doute. Pourquoi attendre qu'ils aient même un seul lingot d'or pour les arrêter, alors qu'on peut les arrêter dès qu'on les voit commencer l'activité? Pourquoi il n'y a pas cette arrestation au début rapide?
C'est ce que je disais. Le niveau de complicité dans l'exploitation illicite des minéraux au site Kivu a pris et du niveau et d'une étendue très grande. J'étais en train de parler du rapport de septembre, d'une mission qui vient de Kinshasa, qui constate qu'il y a plusieurs activités, entreprises dans le territoire de Mwenga, qui sont en exploitation illicite, mais qui ont fini fait payer quelques sommes d'argent, quelques miettes, 20 000, 30 000, etc. Et ils rentrent et laissent l'entreprise continuer à travailler. Tout simplement parce que ces entreprises, à un niveau donné, par des hauts placés à Kinshasa. Nous avons le même cas dans Fizi, où on a eu des gens qui ont suspendu des activités minières, des agents, mais qui ont reçu suffisamment de pression de Kinshasa jusqu'à ce qu'ils ont cédé. Le gouverneur en juillet avait suspendu les activités.
Safanto, nous ne remettons pas en cause tout l'éclairage que vous faites, les responsabilités que vous souhaitez mentionner, y compris qui viendraient de Kinshasa. Mais est-ce que dire que toute la responsabilité ne vient que de Kinshasa, ce ne serait pas du maquillage ou du refus de prendre aussi la responsabilité pour les responsabilités sur place en province de votre recherche, de vos enquêtes? Vous pouvez confirmer ici qu'il n'y a aucune responsabilité au niveau de la province aussi qui joue le même rôle que ceux qui soutiennent à Kinshasa?
Ouais, je dois vous dire que si on peut dire le rôle serait partagé, parce que les questions minières relèvent de la compétence concurrente entre le niveau national et le niveau provincial. Mais beaucoup d'acteurs au niveau de la province n'ont pas le courage d'agir. Ils cèdent facilement au trafic d'influence et à l'intimidation. Je note que la plupart des sites qui sont sous ces coups-là sont protégés par les militaires et des policiers. Et donc, même l'accès à ces sites pose problème. On refuse même aux députés. Vous avez suivi plusieurs fois des députés nationaux et provinciaux qui se plaignaient de s'être vu refuser l'accès aux sites miniers par des militaires et des policiers de la République. Et ça, ça fait que des entreprises continuent à travailler en toute impunité. Vous aviez suivi, il y a peu, des ministres provinciaux qui avaient difficile à accéder à un site parce que le militaire commis au site ne leur permettait pas. J'ai vu des gens aller en mission, mais qui ne pouvaient pas accéder au site parce que le militaire ne les autorisait pas. Moi-même, en août 2023, je suis allé au site de Karembo avec un agent, un OPJ de CSC, qui avait son ordre de mission, mais on nous avait refusé l'accès au site. Donc, comprenez aussi cette situation où même les agents n'arrivent pas à faire correctement leur travail, et certains se résignent et se contentent. Bon, si on lui donne quelque chose, bon, il laisse faire, parce que au-dessus de lui, il y a une pression.
Merci.
Voilà comment se présente la situation.
Merci Safanto Blongo, membre de la société civile du Sud Kivu, expert travaillant sur des questions minières pour le compte de l'ONG Max Impact dans la province du Sud Kivu. Vous restez dans ces échanges avec nous ce soir. Le gouverneur de la province du Sud Kivu dit combattre toutes les personnes qui s'adonnent à cette activité illicite et il nous avait donné les garanties d'être là ce soir pour évoquer la question avec nous, mais quelques minutes avant cette émission, on n'arrive plus à le joindre. C'est dommage parce qu'on aurait voulu avoir sa version des faits et voir avec lui comment trouver les solutions à cette problématique. On espère toujours que là où il nous écoute ou si ses collaborateurs nous entendent, ils peuvent tout faire pour que nous puissions avoir Monsieur le Gouverneur dans cette émission pour qu'on arrête aussi les spéculations. Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, également point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, quelle est votre lecture de cette problématique de l'exploitation illicite des minerais dans la province du Sud Kivu, de la présence depuis un certain temps de plus d'étrangers et particulièrement les ressortissants chinois?
Merci beaucoup, merci aussi à Safanto. Avant de commencer d'abord, j'apporte mon soutien au gouverneur pour son combat contre les exploitants illégaux des ressources naturelles au site Kivu. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un problème de gouvernance qui pose problème dans tous les services de l'État. On constate effectivement que les services de l'État ne collaborent pas. Deuxième chose, la corruption est endémique partout. Lorsque un Chinois vient, il demande un visa de tourisme, on lui accorde un visa de tourisme, il arrive ici, il y a d'autres services à l'intérieur du pays qui doivent contrôler qu'est-ce que le visiteur est en train de faire. Ça, ce n'est plus la DGM. C'est par exemple la police. C'est par exemple l'ANR. C'est par exemple d'autres services spécialisés qui doivent suivre les activités des étrangers sur place. Mais malheureusement, vous constatez que ces services-là ne jouent pas leur rôle. Deuxième chose, la corruption au sein du ministère des Mines. Nous l'avons toujours dénoncé. Nous l'avons toujours dit. Les services des Mines devrait renforcer, devrait avoir des mécanismes de collaboration efficaces pour lutter contre les trafics illicites des minerais. Il devrait s'allier aux policiers, il devrait s'allier à l'ANR, il devrait s'allier au ministère de la Défense avec les gens de la DEMIAP, parce que l'exploitation illicite est une menace au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Actuellement, avec l'insécurité à l'est du Congo, c'est le rapport des Nations Unies et de plusieurs structures internationales lient cette exploitation au financement des groupes armés à l'est de la RDC. Donc vous constatez effectivement que par la corruption, par le manque de collaboration entre les services du ministère des Mines et les autres services étatiques, nous nous retrouvons devant des étrangers qui viennent, qui paient des pots de vin à certains officiels, à certains militaires, à certains policiers qui les accompagnent afin d'exploiter illicitement ces minerais. Ça, c'est l'or seulement. Regardez le coltan qui passe. Il y a des rapports et des rapports des Nations Unies qui lient que le coltan est en train de financer le M23. C'est toujours l'exploitation illégale. L'exploitation de l'or, l'exploitation du coltan au site Kivu Vao. Si vous regardez les statistiques, toute l'exploitation du coltan à l'est de la RDC traverse dans les pays voisins pour le vendre à l'extérieur. Et cela, c'est par la fraude. Et la fraude, donc, on soudoie les ponts de vin. On corrompt, on donne des pots de vin pour effectivement faire partir, faire passer les minerais. Et c'est ce que nous dénonçons chaque fois, que l'exploitation illicite est une menace pour l'intégrité du pays. Pourquoi ? Parce que ces groupes armés qui appellent les Chinois et qui demandent à ceux qui vendent aux Chinois l'or ou le coltan ou d'autres minéraux, ces groupes vont acheter des armes et commencer à tuer les Congolais. Et ça devient un cycle vicieux qui ne se termine pas.
Ernest Pararo, nous ne faisons pas de chasse à la sorcière dans cette émission, mais nous voulons tout simplement éclairer une problématique, essayer de trouver les solutions tous ensemble. Mais vous, dans votre travail, avez-vous réussi à connaître qui aide au coulage de ces minerais? Est-ce qu'on sait qui participe à cela, pourquoi ils le font et pourquoi est-ce que le circuit légal ne l'emporte pas sur le circuit illégal?
Effectivement, comme vous le savez, la corruption, ceux qui sont dans la pratique de corruption, c'est une chaîne. Quelqu'un qui est à Bukavu, qui est dans un village à Walungu, les Chinois les protègent, un militaire ou un policier qui est protégé par les Chinois, le militaire qui les protège a eu l'autorisation de son chef, le chef qui est peut-être à Bukavu, celui de Bukavu a eu une autorisation ici à Kinshasa. Vous voyez la chaîne, c'est toute une chaîne. Et pour casser cette chaîne, il faut des engagements, il faut un leadership fort, il faut l'engagement populaire, il faut l'engagement citoyen.
Mais comment est-ce que le gouvernorat, le gouvernement provincial, les députés provinciaux, les députés nationaux et tous les élus du peuple, chacun à son échelon, n'ont pas réussi, n'ont pas pu trouver les moyens pour dénoncer suffisamment, soit faire arrêter cette opération, cette activité?
Effectivement, c'est parce que tous ces politiciens ont des carrés miniers. Ils ne peuvent pas être jugés partis. Vous vous souvenez de la vidéo de Ale Foka dans les temps? Qui était accusé dans les temps? Vous vous souvenez même du rapport de l'IGF dans les temps? Vous vous souvenez? On recule en arrière pour dire qui était là. Lorsque vous y allez très loin, vous constaterez que ce sont les partis politiques ou les politiciens locaux, les politiciens provinciaux, en accord avec les politiciens ici à Kinshasa, qui ont capturé le secteur. On peut dire un capteur du secteur. Donc ce sont ces politiques qui font des alliances avec les militaires pour appeler les Chinois afin d'exploiter illicitement l'or. Parce qu'un citoyen comme moi, comment est-ce que j'aurai la garde des militaires? Non, je ne peux pas en avoir. Comment est-ce que ça fait tout? On ne peut pas en avoir. Donc, ce sont ces alliances-là maléfiques qui font qu'on ne parvient pas à vaincre cette exploitation illicite. Le gouvernement avait initié avec Primera Gold, vous aviez vu des résultats. Mais il y a eu des tollés sur cette initiative-là. Et nous, en tant que société civile, particulièrement la LICOCO, nous avions soutenu. Pourquoi? Effectivement, pour vaincre cette exploitation, pour combattre cette fraude-là. Malheureusement, actuellement, on a encore relancé, mais nous espérons cette fois-ci que le gouvernement ici à Kinshasa va identifier et les personnes qui sont impliquées sont connues. Ils sont connus, il suffit seulement qu'on les arrête, on les juge et vous verrez que les choses vont marcher.
Merci Ernest Pararo, restez avec nous dans ces échanges. Jean-Jacques Mpouroussi, gouverneur de la province du Sud Kivu, on nous dit qu'il est finalement en ligne. Monsieur le gouverneur, bonsoir et bonne année.
Oui, bonsoir et bonne année, meilleurs vœux à tout le monde.
Merci beaucoup Jean-Jacques Mpouroussi. Tous ceux qui nous écoutent se posent la même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au Sud Kivu pour que l'exploitation minière soit aussi florissante, déjà avec les Congolais, mais depuis un certain moment avec les étrangers, et malheureusement sans trop insister sur une nationalité particulière, mais cette nationalité-là, les Chinois, se déversent dans cette activité depuis un moment.
Merci beaucoup, hein. Merci pour la question. Bon, je crois que tous les intervenants qui m'ont précédé, que ce soit Ernest Parao, que ce soit Safanto, que ce soit l'autre, je vous ai suivi. Bon, vous avez l'essentiel à être, hein. Tout a été dit, hein. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, il s'agit tout simplement d'une haute criminalité qui gangrène le secteur minier au Sud Kivu. Depuis qu'on est arrivé, hein, c'est-à-dire nous sommes installés au fauteuil comme gouverneur de province, je crois que c'était le 28 juin dernier, immédiatement nous avons constaté tout simplement que la province du Sud Kivu ne génère que 500 000 dollars américains le mois. Après, lorsqu'on s'est intéressé au secteur minier à lui tout seul, on a constaté que la province du Sud Kivu est peut-être la seule province parmi les 26 en RDC qui détient tous les minerais, et donc nous avons la cassiterie, le coltan, l'or, ainsi de suite, mais nous avons aussi des minerais jamais exploités, comme le lithium, le cobalt, le diamant, le cuivre, la manganèse, ainsi de suite, sans compter le gaz, méthane, le pétrole, ainsi de suite. Alors on s'est dit que c'est quand même inconcevable que les gens continuent à mourir de misère, à souffrir, il n'y a pas d'école, ainsi de suite. Concrètement, il y a une panoplie. Hein, nous avons mené un audit organisationnel, institutionnel et financier de ce secteur minier. Et là, on a constaté que dans les trois territoires, c'est-à-dire trois seuls territoires sur les huit hein, que compte la province, les trois territoires de Mwenga, Fizi et Shabunda comptent plus de 564 entreprises minières, toutes illégales. Donc, il n'y a pas une seule qui est en légalité. C'est-à-dire, les gens exploitent avec des permis de recherche, d'autres exploitent avec des permis de périmer, hein, depuis très longtemps. D'autres ont des permis d'exploitation, mais qui n'ont plus respecté, qui n'ont plus payé ce qu'il fallait payer à l'État. Et donc, la première décision était de fermer toute activité minière dans la province du Sud Kivu, parce que ça n'a rapporté rien. Il y a destruction de l'environnement, grave violation des droits de l'homme dans les sites miniers. Bon, voilà. Alors, quand on a fermé, on a appelé toutes ces entreprises pour venir, avoir une discussion en tête à tête. Et en trois semaines de négociations, on a quand même obtenu plus de 500 000 dollars américains de recettes de plus. Alors on s'est dit, si on arrive à coincer ces gens, si on arrive à maîtriser ce secteur, on peut générer suffisamment d'argent. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Les collègues, les amis qui m'ont précédé l'ont dit, mauvaise gestion de la chose publique, bien entendu. Il y a la corruption, il y a les détournements, il y a voilà, il y a la haute criminalité.
Jean-Jacques Bourousse, vous êtes un peu comme le président dans cette partie du pays, dans la province du Sud Kivu. Vous avez constaté qu'il y a des antivaleurs. Vous avez certainement envie de stopper toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui fait que vous qui êtes un peu le président de ce coin, vous ne posez pas toutes les actions qu'il faut pour arrêter toutes ces activités-là immédiatement et entièrement?
Non, mais merci beaucoup. C'est exactement ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et nous essayons de mettre en place une architecture qui nous permettra de juguler toute cette mauvaise pratique dans ce secteur. En effet, nous avons d'abord commencé par stopper toute activité minière illégale sur le territoire, mais il faut savoir que la mafia qui est en face, elle est hyper bien organisée, elle est bien structurée. C'est-à-dire dans le secteur judiciaire, de la police, de l'armée, c'est quand même, ces activités criminelles sont protégées par nos propres éléments. Et donc ça, donc on s'y retrouve souvent seul face à tous. Et ça, c'est un grand problème, et donc ça prendra du temps. Néanmoins, nous sommes en train de réussir, comme vous l'avez peut-être suivi récemment ici à Oualougou. Nous avons réussi à arrêter certains présumés criminels qui n'ont pas de documents, pas de passeport, pas de permis d'exploitation, pas de permis de travail, pas de permis de recherche, mais qui exploitent, qui ont une activité, une exploitation industrielle dans beaucoup de sites miniers. Le cas précis ici, c'est celui de Oualougou, plus précisément à Lubimbe ou Tubimbi. Et donc ces gens exploitent des minerais jour et nuit. Et lorsque nous les interrogeons, nous les avons attrapés sur le site, ils disent, bon voilà, nous on extrait que 500 grammes d'or par jour. Bon, ce qui est bien sûr à 90% faux, c'est une fausse déclaration. Mais quand ils ont reconnu 500 grammes par jour, on a calculé, ils sont là sur le terrain pendant 4 ans. Un calcul simple a montré tout simplement que en 2 jours ils ont 1 kilo, et en 4 ans, ils ont tiré 750 kilos d'or. Si vous comptez que le fixing international suggère que le kilo d'or est aussi entre 85 et 90 000 dollars américains par kilo, ces gens ont quand même tiré 45 millions de dollars américains. Alors nous les avons amenés ici, à Bukavu, venant du village là-bas. On a vérifié tout ça et on a trouvé que, bon, ces gens doivent à la province un minimum de 10 millions de dollars américains. Et au passage, je remercie très très sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui tout de suite m'a appelé et dit « Tu as tout mon soutien, continue comme ça, c'est comme ça qu'on va changer la donne dans ce pays. N'aie pas peur, les pressions, les intimidations, je suis là pour te protéger. » Bon, et Dieu merci, grâce à ça, nous avons eu la force, nous avons l'appui de la société civile, de la population, et nous sommes en train d'aller vers l'avant. Donc, pour changer la donne, il faut que la justice fonctionne, il faut que la police fonctionne, il faut que les renseignements fonctionnent, il faut que les services aux frontières fonctionnent.
Monsieur le gouverneur,
je ne vous cache pas, vous avez vu, oui.
Vous continuez de garder la parole, mais puisque vous avez mentionné la population, cette émission est aussi à fort pourcentage interactive. Nous allons faire intervenir certains de nos concitoyens qui ont réagi sur le sujet. Et pour vous, monsieur le gouverneur, vous allez réagir à la réflexion de Jean-Claude qui nous appelle de Kisangani.
Je m'appelle Jean-Claude Eyaï, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Nous saluons la lutte contre l'exploitation illégale des minerais amorcée par les gouverneurs de Sud Kivu. Et nous l'encourageons à aller jusqu'au bout. Toutefois, nous condamnons avec la dernière énergie l'attitude des autorités provinciales et nationales de la DGM qui ont fait fuir les sujets chinois qui ont exploité illégalement les richesses de la province en particulier et du pays en général au détriment de la population congolaise. Devant cette complicité égoïste, Toutes les autorités de la DGM impliquées dans cette affaire doivent être sévèrement punies et par voie de conséquence, elles doivent rendre à la République tous les minerais dont elles ont occasionné l'évasion. Si cela ne sera pas possible, ces autorités complices de la DGM doivent verser au trésor public les sommes d'argent qui soient équivalentes aux quantités de minerais évadés.
Jean-Jacques Pouroussi, tout en répondant à cet auditeur, éclairez-nous rapidement ce qui s'est passé avec ce groupe de Chinois qui, semble-t-il, ont été arrêtés, transférés pour venir à Kinshasa, mais qui se sont volatilisés dans la nature. Si c'est le cas, comment comptez-vous faire pour que les prochaines personnes qui seront interpellées puissent répondre et peut-être rembourser ce qu'il faut et être sanctionnés sans qu'il y ait fuite?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire qu'il y a trois vagues de Chinois que nous avons arrêtés dans les deux semaines qui viennent, depuis deux semaines. La première vague, c'est celle qui vient d'être évoquée ici tout à l'heure. Il y avait effectivement 17 citoyens chinois, 6 Burundais et non, un Burundais et 6 Congolais que nous avons attrapés sur le site en pleine exploitation illégale. Et nous les avons fait venir du village là-bas, donc de Walungu, 3 heures de route à peu près, jusqu'à Bukavu. Et là, forcément, après les avoir entendus, nous les avons remis entre les mains de la police. Le lendemain, nous avons appris que la police les a transférés à la DGM et quelques jours après, nous avons appris qu'ils sont déjà, ils sont passés par le Rwanda, ils ont traversé, ils sont maintenant en Chine. Forcément, nous avons été sidérés par cette situation et la hiérarchie est en train de mener des investigations avec le soutien du président de la République, chef de l'État, qui nous soutient dans cette lutte. Une investigation multisectorielle est en train d'être menée pour établir des responsabilités par rapport à ça. Mais comme nous l'avons dit aussi à son Excellence, monsieur l'ambassadeur de Chine, il faudra que cet argent soit payé à la province du Sud Kivu, quoi qu'il arrive, comme l'auditeur vient de l'évoquer ici tout à l'heure, et que la chaîne des responsabilités soit clairement établie. La deuxième vague des Chinois, celle que nous avons arrêtée il y a quelques jours, nous avons eu des signalements qu'il y a encore exploitation illégale. Là, nous les avons tendu un piège dont nous sommes camouflés. Nous avons quand même réussi à les capturer. Capturer 3 citoyens chinois. Et quand on les a amenés ici, en ville, on a checké leurs effets. Il n'y avait absolument rien. Leurs valises. Et puis quand on a démonté le véhicule, quand je dis démonté, c'est enlever vraiment les sièges en dessous du châssis, était encastré. Exactement, 10 lingots d'or et des billets de 400 000 dollars américains. Forcément, on a fait ça devant la société civile pour raison de transparence. Les médias, on les a appelés à l'avance, on a regardé tous ensemble. Et donc, les 400 000 dollars américains en billets de 100, en coupure de 100 dollars, voilà, ça, on a pris cet argent, on a été le consigné à la Banque Centrale du Congo avec PV, voilà, avec la en collaboration avec la justice, ainsi de suite. Nous estimons que cet argent, en fait, en suivant le code minier, c'est de l'argent qui doit servir au développement, à la reconstruction de la province du Sud Kivu, c'est de l'argent qui n'a pas de contrepartie. Maintenant, la troisième vague, c'est avant-hier, nous avons encore attrapé 8 citoyens chinois sur base d'informations. On les a attrapés toujours dans le même axe de Walungu. Et quand on les a amenés ici, on a checké, ils n'avaient absolument rien, ils n'avaient que leur bagage. Mais, vérification faite, ce sont des gens qui venaient de Kamituga, une société chinoise aussi, mais qui était en exploitation illégale selon notre base de données. Cette société aussi, ces gens ne doivent pas être sur ce site, ils n'ont aucun document, ils n'ont rien du tout. Pas de document, pas de permis de travail, pas de permis de recherche ni d'exploitation, mais qui sont en exploitation là-bas. Et donc, ceux-là, on les a arrêtés. On les a placés dans un espace surveillé avec la sécurité. Et forcément, ces gens se sont volatilisés dans la nature très tôt le matin quand on veut les récupérer pour amener à la justice. On a constaté qu'ils se sont volatilisés dans la nature. Forcément, lorsqu'on a mené des enquêtes, on a appris que ils ne sont pas passés par les douanes traditionnelles, hein, c'est-à-dire terrestres, mais ils sont passés par les frontières maritimes, lacustres. Donc ils ont réquisitionné un bateau de la SNCC, et ce bateau les a conduits jusqu'à Goma. Mais récemment, la coopération interprovinciale a joué, j'ai pu les intercepter, et avec l'appui et la collaboration et l'accompagnement du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des services, l'appui de mon homologue, le gouverneur du Nord Kivu, du ministre national des Mines et de la population, nous avons pu capturer et récupérer ces gens. Et à l'heure où je vous parle, ils sont dans un bateau. Ils voulaient prendre déjà l'avion pour Goma et tout était déjà monté de toutes pièces par différents services, mais nous les avons quand même récupérés et ils sont en train de revenir à l'heure où je vous parle. Ils vont arriver dans quelques heures. On a affrété un bateau spécial qui est en train de les ramener ici sur Bukavu afin que la justice, le processus judiciaire puisse être enclenché. Voilà, et les trois autres Chinois qui étaient là et qui voulaient partir, on les a récupérés aussi. Donc encore une fois, je voulais juste préciser que l'idée, ce n'est pas de torturer les gens, non. On leur donne même à manger, à boire, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. L'idée, ce n'est pas de chasser des partenaires, mais nous avons demandé, et nous sommes appuyés par le président de la République, chef de l'État, nous avons estimé que là où il faut discuter avec ces gens, c'est ici à Bukavu. C'est ici, sur place, où l'incident, le crime s'est passé, ou l'allégation du crime, disons ça comme ça. Et donc, il faut qu'on discute maintenant avec eux un partenariat gagnant-gagnant. Ils payent d'abord ce qu'ils doivent à l'État, et s'ils se mettent en ordre, là, nous sommes prêts à imaginer ensemble un nouveau partenariat. Voilà, nous avons créé ici, pour information, la Société provinciale des minerais. Et donc, toutes ces mines qui sont en défaut avec tous ces sites miniers qui sont en défaut avec la loi, qui sont illégalement exploités, nous envisageons effectivement de les mettre dans les actifs, dans le respect bien sûr des lois de la République, dans les actifs de la Société provinciale des minéraux.
Jean-Jacques Pouroussi, c'est passionnant d'écouter avec vous toutes les péripéties pour gérer cette problématique et trouver une solution une bonne fois pour toutes. Nous allons essayer vraiment de vous garder pour terminer avec vous avec les solutions rapides dans les prochains jours qui peuvent marcher dans la recherche des solutions définitives. Safanto Boulongo, membre de la société civile du Sud Kivu, expert travaillant sur les questions minières pour le compte de l'ONG Max Impact au Sud Kivu. Vous allez aussi recevoir le commentaire d'un auditeur. Ensuite, vous allez partager avec nous votre commentaire. Pour vous, nous allons recevoir Patrick qui nous appelle depuis Kolwezi.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il y a à boire et à manger dans la problématique des exploitations illégales des minéraux, non seulement au Kivu, même ici au Lualaba. Ces exploitants illégaux étrangers, souvent brandissant les noms de certains dignitaires du régime en place et d'autres brandissant les noms de certains hauts officiers de l'armée congolaise. C'est la preuve de l'impunité qui a atteint le paroxysme en RDC, où des individus circulent librement avec de grosses sommes d'argent en dehors des circuits bancaires. Et avec cet état des choses, comment voulez-vous que la situation sécuritaire change quand on sait que plusieurs hommes forts du pays, en complicité avec des étrangers, tournent autour des mines du pays et s'enrichissant sous l'œil complice de ceux qui ont la gestion de la République? Je pense que la lutte contre la fraude et l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous n'avons aucun conseil à donner aux dirigeants actuels, car ils savent ce qu'il faut faire pour mettre fin à la mafia organisée et entretenue sur l'ensemble du territoire national. Et nous sommes fatigués à les conseiller. Ils sont insensibles à nos cris.
Safanto Bulongo, cet auditeur est dans la province du Lualaba, vous êtes dans le sud Kivu, il est dépité, hein, il est dépassé, il ne trouve même plus les forces de donner un quelconque conseil. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
Ouais, effectivement, il a raison. L'attitude de beaucoup de gens, c'est la résignation face à la situation. Ça se passe pas seulement au Lualaba. Si vous allez dans la province de la Tchopo, en Ituri, au Maniema, et dans, au Nord Kivu, dans toutes nos, au Tanganyika, dans toutes nos provinces, la situation est presque identique. Et je note ce qui est marrant, c'est que vous allez constater que le service membre de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière assiste même ces différents exploitants illégaux dans cette salle besogne. Mais moi, je me dis, pour travailler sur les questions minières, il faut avoir suffisamment d'énergie. Et raison pour laquelle je plaide pour que le province, les gouverneurs de province qui nous suivent, prennent la chose en main. Parce que la loi leur permet, jusqu'à un moment donné, on faisait voir aux gouverneurs de province qui n'ont pas compétence à agir sur le secteur minier pour arrêter le caractère illicite de l'exploitation. Et donc, je leur rappelle que l'article 203, alinéa 16, leur donne la compétence, mais également l'article 63 de la loi.
Safanto Bulongo semble avoir des difficultés de contact téléphonique avec nous. On va essayer peut-être de l'avoir pour le dernier mot avant la clôture de cette émission. Ernest Bararo, secrétaire exécutif de la Ligue nationale de lutte contre la corruption, l'ICOCO, en sigle également, point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Pour vous, nous allons écouter ce dernier auditeur.
Je suis Jules Maguenet, militant du mouvement citoyen Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. D'entrée de jeu, je félicite le gouverneur du Sud Kivu, M. Jean-Jacques Purusi, et son ministre d'économie, M. Bernard Mouindo. Toutefois, la lutte contre l'exploitation illégale des minerais au Sud Kivu a récemment vu des avancées avec l'arrestation des ressortissants chinois en possession des lingots d'or et des sommes importantes d'argent. Cependant, la libération sur ordre des autorités nationales, bien entendu, pose des questions sur la transparence et la coopération entre les différentes institutions. Nous pensons que pour étendre cette lutte, surtout de la RDC, il est nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles, lutter contre la corruption, impliquer les communautés locales, coopérer avec les partenaires internationaux et appliquer strictement les lois en vigueur. Toutefois, ces mesures permettront d'assurer une gestion équitable et durable des ressources naturelles du pays.
Ernest Mpararo, votre réflexion?
Oui, effectivement, je salue d'abord le gouverneur qui est avec nous ici dans cette émission. Effectivement, l'auditeur a tellement raison. Il faudrait, comme je l'avais dit, il faudrait que les services collaborent. Lorsque le ministère, le cadastre minier, donne des permis de recherche, il faudrait que ce permis de recherche soit, l'information soit donnée à d'autres services pour effectivement voir si la société qui a le permis de recherche est en train de faire la recherche. Mais lorsqu'il y a 564 sociétés qui travaillent dans l'illégalité, ma question est de savoir qu'est fait le ministère des Mines. Et auprès du ministère des Mines, il y a l'inspection générale des Mines. Quel est le travail de cette inspection-là? C'est l'inspection qui devrait alerter, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les ministres nationaux, pour dire, écoutez, voici ce que nous avions, et les gouverneurs, avec les ministres nationaux, alerter les ministres de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur, alerter les ministères de la Défense, pour que les trois ministères collaborent afin d'éviter, parce que, comme je vous l'ai dit, l'exploitation illicite est une menace au financement du terrorisme. Il ne faut pas oublier cela. Et je pense que le gouverneur l'a bien dit. Donc c'est une chaîne de gens qui est, que ce soit sur les sites, que ce soit la province, et jusqu'ici à Kinshasa. Parce qu'un policier qui accompagne les Chinois ne peut pas accompagner s'il n'a pas eu l'autorisation de la hiérarchie. Or, celui qui donne l'autorisation, c'est celui qui est en province. Et celui qui est en province reçoit les ordres de celui qui est à Kinshasa. Et c'est comme ça que la chaîne fonctionne. Donc, le gouverneur, vraiment, je le félicite, et je pense que le gouvernorat doit aussi commencer à dénoncer ces personnes pour que les citoyens ou pour que le président puisse savoir que c'est X personne, c'est X autorité, c'est Y autorité qui est en train de faire ça parce que c'est la province est dans une instabilité totale. Nous sommes avec la guerre qui se passe au nord Kivu, le site Kivu est le site Kivu est aussi attaqué en tension. Donc, si ça barde au nord Kivu, ça risque de revenir au sud Kivu. Donc, avec les exploitants illégaux, nous pouvons nous attendre à tout. Ils peuvent venir avec des armes, ils peuvent venir avec des bombes, des drones, on ne sait pas. Mmh. Vous voyez.
Donc, Ernest nous Pararo, sollicitons. Oui, oui. Ernest Pararo, c'est votre travail depuis bien des années, de suivre ces questions de production des richesses en République démocratique du Congo, y compris le secteur minier. Vous, comme nous, nous constatons que le secteur minier échappe au trésor public de la République démocratique du Congo, mais enrichit les activités terroristes et extérieures du pays. Ça signifie que c'est depuis beaucoup de temps que les minerais, notamment du sud Kivu, ne bénéficient pas ni à la province ni au pays. Nous sommes en train de terminer cette émission. Quelle solution proposez-vous pour que peut-être cette fois-ci le sud Kivu puisse bénéficier de sa particulière richesse en minerais, mais aussi que toute la RDC puisse protéger ces minerais de l'exploitation illégale?
Merci beaucoup. Comme solution, la première solution, c'est d'activer l'initiative Primera. Aujourd'hui, c'est DRC Gold Trading. On a changé Primera en une société du portefeuille de l'État pour donner le monopole, que le gouverneur discute avec les autorités de DRC Gold Trading pour qu'ils aient le monopole. Personne ne peut vendre de l'or ou acheter de l'or à part cet organisme-là. C'est une société, c'est un établissement d'État. Ce n'est pas quelque chose de privé. Donc, la province peut investir là-dedans, ils auront des actions, ils peuvent aussi gagner de l'argent. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, il faut effectivement qu'il y ait sanction. On doit sanctionner les militaires, les politiciens qui ont des carrés miniers. Nous les savons. Nous les connaissons. Ils sont de là-bas. Nous savons que X a un carré minier. Il va où? Nous les connaissons. Nous devons les dénoncer. Nous devons les dire à tout le monde. Tel site, ça appartient à tel. Il a mis les Chinois. Ce sont les Chinois là qui amènent des militaires pour protéger le site de X. Nous les connaissons. Le gouverneur doit nous aider, doit collaborer avec la société civile pour dénoncer ces gens. Troisième aspect, comme il a l'accompagnement du président de la République, le gouverneur doit lui donner tous les fraudeurs, tous ceux qui font dans les commerces illicites. Il doit envoyer des lettres pour dire c'est X, Y, Z, A. Et nous devons savoir ces gens-là pour qu'ils soient poursuivis. Si on ne fait pas cela, la province est en train de sombrer et ça sera plus catastrophique qu'aujourd'hui.
Merci Ernest Pararo. Safanto Boulongo, membre de la société civile du Sud Kivu, expert qui travaillait sur des questions de minières pour le compte de l'ONG Max Impact dans la province du Sud Kivu. Vous aussi, en tant qu'homme de terrain, en tant que représentant de la population, quelles propositions vous avez, peut-être en plus de ce que vient de dire Ernest ou en complément de ce que vient de dire Ernest, vos solutions pour que cette situation d'exploitation illégale, notamment par les étrangers et les Congolais, s'arrête et que cette même pratique soit étendue à tout le pays?
Merci beaucoup. Premièrement, ce qu'il faut que les pénalités infligées aux entreprises et acteurs actifs dans l'exploitation illicite le font soit réinvesti au niveau local pour financer la réparation des impacts négatifs de l'exploitation minière, que ce soit vraiment la totalité, contrairement aux pratiques actuelles où, quand il y a des pénalités, c'est Kinshasa qui prend la totalité. Deuxièmement, je note que la question, le niveau de trafic d'influence, il faudra laisser les mains libres aux autorités en province de pouvoir sanctionner les entreprises en irrégularité en réduisant au maximum effectivement le trafic d'influence par des personnes qui souvent n'ont ni titre ni qualité. Je note contrairement à ce que Ernest a dit pour ce qui est de du monopole accordé à une seule entreprise, notamment Primera. Pour nous qui sommes en province, la fiscalité de Primera n'est pas avantageuse pour le développement des entités territoriales décentralisées et de province. Et donc, on devra rediscuter effectivement la fiscalité, cette fiscalité-là. Et je suis partisan de la création des entreprises minières de province. Et à ce moment-là, non seulement de province, mais aussi des ETD, à ce moment-là, le retombé de ces activités minières-là pourrait financer le développement local. Et donc, le soutien aussi des niveaux nationaux est important dans le sens de rendre la compréhension pour tous du fait que les provinces sont compétentes pour pouvoir arrêter des activités minières illicites. Parce que plusieurs fois, on a constaté qu'il y avait des pesanteurs venant du DAO pour étouffer les initiatives de province. Et enfin, je note que la justice doit faire son travail. Aussi que vous, on a des cas où des opérateurs miniers pris en flagrant renoncent même aux minerais, mais à la fin, c'est la justice qui tranche en remettant le colis entre les mains des opérateurs qui initialement les ont nié leur propriété. Nous avons des cas aussi de Kivu. On a eu le cas de triste mémoire avec Kimia Mining en Ituri. Et ça, c'est des facteurs qui essaient de décourager. Et enfin, les services de sécurité qui font partie de la commission nationale de lutte contre la fraude minière doivent jouer convenablement leur rôle, à défaut les sanctionner. Et ici, j'invite le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Défense, à pouvoir prendre des mesures pour sanctionner les différentes autorités sécuritaires qui assurent la sécurité pour ceux qui sont en train d'exploiter illicitement de minerais dans nos. Et enfin, les députés nationaux, parce que là, je dois vous dire qu'on a eu des cas de triste mémoire où on a des élus qui viennent en mission et puis par après, ils reviennent avec des entreprises qui s'alignent dans l'exploitation illicite. Et là, c'est, je cite le cas de Yellowstone, qui est une entreprise pilotée par un ancien député national qui était venu en 2022 au site Kivu pour une mission de contrôle dans les territoires de Moindre. Quelques temps après, le député en question est revenu avec une entreprise et qui crée des relations dans ces territoires. Enfin, oui. je félicite les jeunes en territoire de Moindre qui essaient de lutter pour décourager le trafic des Chinois qui sont en exploitation illicite dans ce territoire-là, et je demande à toute la population de leur emboîter le pas. C'est parce que par une grande prise de conscience qu'on arrivera à mettre fin à cette exploitation illicite dans nos provinces.
Safanto Boulongo, merci. Jean-Claude Pourroussi, gouverneur de la province du Sud Kivu. Beaucoup de vos prédécesseurs, gouverneurs, ont eu à être confrontés à ce problème d'exploitation illicite. Et beaucoup n'ont pas résolu le problème, car les minerais, comme beaucoup de rapports le montrent, ne participent que trop peu à renflouer les caisses de l'État, alors qu'il y en a suffisamment, comme vous l'avez vous-même expliqué tout à l'heure. Rassurez-vous déjà aux auditeurs qui nous écoutent que vous-même, comme viennent de le témoigner ici beaucoup d'organisations, les politiciens se retrouvent dedans, vous-même en tant que politicien, vous n'êtes pas concerné par cette activité-là, et surtout, que trouvez-vous, comment trouvez-vous les propositions des deux autres experts? Et enfin, vous-même, comment comptez-vous résoudre ce problème définitivement là où beaucoup de vos prédécesseurs ont échoué? Jean-Jacques Pourou, si vous êtes là? Allô, monsieur Gouvé, oui, allez-y. Est-ce que vous avez suivi nos questions? Quelles sont vos solutions? Oui, comment entends, arriverez-vous à réussir là où beaucoup de vos prédécesseurs ont échoué?
Je suis là, je vous entends. Oui, je suis la question.
Allez-y.
De détermination et de volonté politique. Et je crois que ces trois dimensions, je les remplis amplement. En tant que issu moi-même de la société civile, je comprends tout à fait et je partage entièrement le combat que mènent des acteurs hein, que vous venez d'interroger, enfin que vous venez d'interviewer, notamment Monsieur Mpararo, Ernest, que ce soit Boulongo, Safanto et d'autres qui sont passés avant moi ici, nous partageons la même vision, c'est-à-dire que d'abord nous sommes déterminés à changer le paradigme. On ne fait pas la politique pour c'est pas la politique comme ça se passait hier, avant-hier. Non, pas du tout. Au fait, moi je suis vraiment déterminé et je vais aller jusqu'au bout. J'ai d'abord l'appui et l'accompagnement du président de la République, avec qui je suis en contact régulièrement, plusieurs fois, même sur cette question. Naturellement, mon ministre de l'Intérieur m'accompagne, j'ai l'accompagnement du ministre des Mines et d'autres acteurs, et l'accompagnement de la société de la population, vraiment l'action très acceptée par la population. Et donc, bon, voilà. Vous savez ce qui se passait avant, que ce soit ici ou ailleurs. Je pourrais aussi dire les 10 lingots, les 400 000 dollars, c'est le même projet, clair, un lingot comme ça se passait ailleurs et ici. Mais nous avons mis sur la table, bon voilà, cet argent va aller dans les caisses de l'État et nous pensons, nous allons encore frapper partout. Nous sommes déterminés aussi, je voulais dire un aspect, hein, que Safanto est revenu sur un aspect, de l'or, des matières précieuses qui disparaissent. Ici, nous sommes en train de mettre en place une commission d'enquête pour essayer de voir les 10 kilos qui viennent de Chabunda, il y a eu, si c'est combien de tonnes de cassiterite, il y a eu beaucoup d'argent qui disparaissent entre les mains illégales ici. Donc, il y a une commission d'enquête qui est là. Et lorsque nous allons y arriver, nous allons remettre cet argent dans les caisses de l'État, bien entendu. Mais notre détermination est là, c'est de faire en sorte que le secteur minier, qui est le secteur prépondérant de l'économie du Sud Kivu, puisse être un facteur de développement et non un facteur de misère comme c'est le cas maintenant. Et nous pensons que c'est possible. Voilà, nous allons appliquer les lois, nous allons... Pour
simplement... Merci beaucoup à tous les trois messieurs d'avoir participé à cette émission. La qualité téléphonique s'est beaucoup détériorée. Merci beaucoup à monsieur le gouverneur d'avoir pris de votre temps. Nous sommes obligés de terminer l'émission par ici, vu que la qualité aussi de la ligne n'est pas bonne pour vous écouter jusqu'à la fin. Mais nous espérons que nos auditeurs ont capté l'essentiel de votre intervention ainsi que celle de deux autres participants à cette émission, Pierre Diassinoua, Jonathan Fouanani, Hervé Voka, grâce à Mzati Guimate et Clément Chimanga m'ont aidé à produire l'émission de ce soir de Noma Dimba. C'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.